9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, à votre santé, mon invité ce matin s'appelle Patrick Bouchard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes alcoologue et vous publiez « Il suffit d'une rencontre, une histoire de dépendance qui finit bien » aux éditions Flammarion. C'est un sujet qui n'est plus du tout à la mode, hein, l'alcoolisme ou la maladie alcoolique. C'est sorti des radars.
Vous vous trouvez, pas moi. Moi, je trouve que...
Ah bah, non, attendez, on parle de beaucoup de choses. L'alcoolisme, j'ai l'impression que dans les médias, ça n'intéresse personne, en tout cas.
Ça n'intéresse personne, mais en ce moment, on en parle quand même pas mal. Hein. La réduction des risques, le fait que les Français consomment beaucoup trop d'alcool, le fait que une famille sur deux est concernée, 40% des violences conjugales. On en parle quand même un petit peu.
Ouais, enfin, ça va, ça fait pas beaucoup de bruit. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que 8% de la population consomme 50% de l'alcool qui est commercialisé. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de gens qui boivent beaucoup, finalement.
Oui, mais ces 8% sont 8% de toxicodépendants d'alcool, mais on oublie de dire qu'il reste que derrière ça, derrière les alcoolodépendants, les toxicodépendants d'alcool, on a 16% de consommateurs excessifs. C'est les futurs alcoolodépendants. Donc, il faut prévenir ces consommateurs-là qui sont à risque. Et ils sont à risque de devenir alcoolodépendants.
Bon, les mots ont un sens et vous expliquez que finalement, on ne parle plus d'alcoolisme ni d'alcoolique. Vous-même, vous parlez d'alcoolodépendant. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a un mot qui est bien pratique, c'est addiction. Pourquoi finalement, cette vocable d'addiction, elle est bien pratique et elle cache la réalité des choses ?
Bah, tout simplement parce que l'addiction, à mon avis, c'est sur toutes les addictions. Et on était très très content de noyer l'addiction d'alcool dans les autres addictions.
Mais pourquoi ?
Pour l'oublier, tout simplement. Vous venez de le préciser.
Ah ben non, donc on est d'accord. On est donc d'accord qu'on ne parle plus... D'abord, on ne parle plus d'alcoolisme. En France, on parle de maladie alcoolique.
Oui, absolument.
Donc,
absolument.
Encore une fois, les vocables changent.
Oui. Moi, je suis très partisan, justement, d'accoler le mot maladie à alcoolisme. Pourquoi ? Parce que si c'est une maladie, ça se soigne. Et si ça soigne, on peut se stabiliser de cette maladie. Donc, je suis très content qu'on puisse mettre le mot maladie ou malade devant alcoolique ou maladie alcoolique. Voilà.
L'alcool est la plus dure des drogues dures en termes de dépendance physique et psychique, de neurotoxicité et de toxicité générale. Ça, on n'en parle pas.
On n'en parle pas, pourtant c'est la réalité. C'est la seule drogue dont l'arrêt, d'ailleurs, peut provoquer le décès. Vous pouvez arrêter demain l'héroïne, la cocaïne et certains médicaments psychotropes, peut-être pas les benzodiazépines parce qu'il faut se faire accompagner. Vous pouvez arrêter le tabac, vous pouvez souffrir le martyr en arrêtant, mais vous n'allez pas décéder. On a plus de 200 morts par an de gens qui s'auto-sevrent seuls, donc il faut absolument se faire aider.
Alors l'auto-sevrage, vous expliquez pourquoi d'abord c'est violent.
C'est très violent.
Et pourquoi c'est dangereux, alors que la plupart des gens, vous voyez, quand on parle de tabac, vous avez la plupart des gens qui disent « bah oui, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain, comme ça, sans qu'on m'aide ».
Oui, mais je ne suggère pas pour l'alcool. Pour l'alcool, il faut véritablement être accompagné. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va éviter les réalcoolisations derrière. On ne s'arrête pas seul, il faut se faire accompagner. Et puis, en plus de ça, ça peut être dangereux. Les médecins peuvent prescrire des médicaments psychotropes d'aide au sevrage. Et c'est ce qu'il faut suggérer à tous les gens qui s'arrêtent de consommer. Et arrêter de dire à son meilleur ami, s'il a un problème d'alcool, arrête de boire et jette les bouteilles dans l'évier. Mais oui, mais pas tout seul. Alors, il y a les médecins qui font partie du corps médical, mais il y a aussi toutes les associations d'anciens consommateurs. Et on les a aussi pour les autres dépendances. On a un narcotique anonyme, par exemple, pour la drogue, mais on a un alcoolique anonyme pour l'alcool.
Vous expliquez dans votre livre que l'alcool a joué un rôle déterminant de l'adolescence à l'âge de 35 ans, à peu près chez vous.
30 ans.
30 ans. Et qu'aujourd'hui, vous en avez fait votre métier, puisque vous êtes retourné à l'école, vous êtes devenu alcoologue, et que vous avez fondé AC Consultant, le premier cabinet d'alcoologie d'entreprise en France. Pourquoi avoir ciblé le monde de l'entreprise ?
J'ai ciblé le monde de l'entreprise parce qu'il y a encore là un lien social. C'est-à-dire que quand les malades alcooliques ont tout perdu femmes, enfants, permis de conduire, compte en banque et logement pour certains, il reste souvent une chose, c'est le travail. Et le travail est récupérateur et socialisant. Vous arrivez au boulot, vous avez un chef de service, vous avez une tâche à faire et vous êtes structuré. Quand il n'y a plus de travail, on est complètement déstructuré. C'est la dernière chose que l'on conserve en général, c'est le travail.
Mmh. Sauf que vous nous prenez des exemples dans votre livre de gens qui vont encore au boulot, mais qui commettent quand même des bourdes. Hein.
Bah oui,
pour ceux qui continuent à travailler, pour ceux qui ne sont pas, comme on dit, placardisés dans leur bureau à faire des photocopies sans que plus personne ne s'en occupe finalement.
Oui, mais ils ont eu cette chance, c'est que leur DRH ou leur médecin du travail ou leur dirigeant ait fait appel à moi et qu'on ait pu les sauver justement puisqu'ils avaient le boulot. Donc ce ne sont pas des perdus de vue comme on a l'habitude de les voir dans les cabinets médicaux, ils viennent une fois et ils ne reviennent plus jamais. Donc, moi, j'étais assez content de les avoir dans les entreprises et eux-mêmes étaient très contents de cette prise en charge du fait que je les rencontre de nouveau et ils sont toujours abstinents, ces gens-là.
Mmh. J'ai l'impression, finalement, que est-ce que c'en est une, que les grands absents, ce sont les médecins du travail ?
Les médecins du travail sont de plus en plus formés, mais il a fallu des années pour les former à l'alcoolisme. C'était bien un domaine qui leur faisait peur, c'est vrai. Mais maintenant, de plus en plus, ils passent des certificats en addictologie, ils passent des DU en alcoolologie. Moi, je les vois en faculté de médecine, hein, souvent, puisque je suis enseignant en fac de médecine. Et là, on les voit se former de plus en plus. Et c'est vrai que c'est un acteur incontournable dans les entreprises, c'est le médecin du travail.
L'alcool est très présent en entreprise. Est-ce que c'est une question de génération ? Aujourd'hui, les nouvelles générations boivent autant que les précédents ?
Alors, les modes d'alcoolisation ont changé. C'est-à-dire qu'on boit de moins en moins dans l'entreprise, mais à l'extérieur de l'entreprise. Les after-work, par exemple, sont très à la mode à l'heure actuelle, et les entreprises se rencontrent lors d'after-work. C'est à l'extérieur de l'entreprise, mais les alcoolisations sont excessives également. Il y a un changement véritablement notable en ce qui concerne l'alcoolisation, par exemple, dans le bâtiment et travaux publics. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, on avait des alcoolisations extrêmes. Maintenant, on trouve quand même une diminution certaine de l'alcoolisation dans le bâtiment et travaux publics.
Mmh. Je ne sais pas si vous avez vu un article récemment qui parlait de l'Assemblée nationale et qui disait que de la nouvelle génération de députés qu'ils ne buvaient plus et qu'ils étaient au jus de fruits frais et au Coca-Cola, pour pas citer cette marque, en tout cas une boisson Coca-Cola, mais qui buvaient quand même beaucoup moins que leurs aînés.
Oui, bon, j'en connais encore qui vont pas très bien, hein, que ce soit à l'Assemblée nationale ou que ce soit ailleurs. Les 8% dont on parlait tout à l'heure, c'est toute strate de la société confondue, hein,
Y compris les députés.
Y compris les députés, les médecins, ok. Donc, on a traité des médecins, on a traité des députés, on a traité des hommes politiques, des dirigeants d'entreprise. Il n'y a pas de frontière sociale, hein, à la maladie alcoolique, hein. On a l'impression que c'est toujours réservé aux basses couches de la société, mais pas du tout, hein, pas du tout. J'ai autant traité d'ouvriers que de cadres supérieurs et de dirigeants d'entreprise.
Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, il y a toujours un déni, qu'il soit individuel ou collectif, pour ce qui concerne la maladie alcoolique ?
Alors le déni, c'est compliqué le déni. Hein. Le déni, j'ai assisté à des professeurs de médecine qui nous ont expliqué le déni. Des fois, ça dure 2 heures. Hein. C'est très, très compliqué le déni. Le déni, c'est pas un mensonge.
C'est ce que vous expliquez. Alors, déjà, vous expliquez que le déni n'est pas un mensonge.
Non.
Mais c'est quoi la différence entre un déni et un mensonge ?
Alors, je vais vous expliquer en 2 mots ce qu'on peut comprendre par le déni. Le déni, c'est un système de défense. C'est-à-dire que vous dites à quelqu'un qui est malade à la colique, qu'il ne veut pas l'entendre. Il dit que c'est pas vrai. Il dit que c'est les autres qui le sont, pas lui. Comment je pourrais vous expliquer le déni ? Ben, je peux vous expliquer le déni par...
Ça, c'est ce qu'il dit, mais est-ce que c'est ce qu'il pense ? Parce que finalement,
Il sait quelque part qu'on sait qu'on devrait savoir qu'on ne va pas savoir. Vous voyez, il y a une espèce de bazar dans sa tête qui est très compliqué. Et c'est justement aux alcoologues de dérouler la pelote et dérouler la ficelle pour essayer de l'aider à en prendre conscience. Je peux vous donner un exemple de déni qui va peut-être vous aider à comprendre ce qu'est le déni du mal alcoolique. Vous avez le déni grossesse. Vous avez des femmes qui ont 6 mois ça fait 6 mois qu'elles sont enceintes. Elles sont pas enceintes. Et même le mari n'est pas au courant.
Et ça ne se voit pas.
Et en plus,
c'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, oui. Et ben, vous avez des malades alcooliques. À part quelques périodes, ça se voit pas. Ils travaillent, ils continuent à travailler, et puis ils font la grosse connerie du siècle. Et c'est souvent là où je suis appelé. Et c'est à ce moment-là où on dit, tout remonte. C'est là où on voit que ça ne va pas du tout. Et quand on recolle les pièces du Pulse, on se dit, oui, il y a un truc qui ne va pas du tout.
Mais comment est-ce qu'on aborde cette question de la maladie alcoolique en entreprise ? Ça dépend du poste qu'occupe la personne qui est...
Surtout pas comme un dernier DRH que je viens de voir il n'y a pas tellement longtemps, qui a dit à Robert... la phrase suivante, en me présentant à Robert, Robert, dis à Monsieur Bouchard que t'es alcoolique, que t'étais en cure et que t'as rechuté. Heureusement que j'étais là parce que j'ai traduit directement en disant, vous pensez pas, Monsieur le Directeur, que Robert ait une relation difficile avec l'alcool, qu'il était en hospitalisation pour sevrage et qu'il s'est réalcoolisé. Et là, Robert a dit, c'est ça que j'ai. Vous voyez, les mots émotés, des mots MAUX, c'est vachement important. Et c'est comme ça qu'on soigne les malades alcooliques, avec des mots, de la gentillesse, de la patience et de l'eau.
Oui, c'est ce que vous dites. Ça, c'est
et on y
le
arrive. Traitement.
Et du temps.
Et beaucoup de temps.
Et beaucoup de temps.
Et c'est pour ça qu'il faut éviter qu'ils deviennent, en faisant de la prévention. Quand vous avez 16% de consommateurs excessifs dans les entreprises, vaut mieux prévenir ces consommateurs excessifs à 16%, les prévenir de ne pas devenir alcoolodépendants plutôt que de traiter les 8%.
Mais il peut y avoir un déni non seulement de la part de la famille et de l'entreprise. C'est un mot que moi, j'entends jamais prononcer en entreprise. Moi, j'étais confronté à des cas de salariés qui étaient effectivement alcooliques. Je n'entendais jamais. Alors, on disait, ils ont des problèmes.
Alors, on ne dit même pas ça, on dit ils sont fatigués.
Enfin, nous, il y avait des problèmes, mais on ne savait pas lesquels. Mais il y avait des problèmes, tout le monde le savait, mais personne n'en parlait jamais, personne n'évoquait les
Quand on va un peu plus loin, j'arrive dans l'entreprise et que je demande véritablement précisément ce qui se passe, on me dit ils sont fatigués. Et d'ailleurs, quand je les vois la première fois, je leur dis qu'est-ce qui se passe ? Et vous savez ce qu'ils me répondent ? Ils me disent je suis fatigué. Parce que ça fait des années qu'on leur répète, rentre chez toi, t'es fatigué. Alors qu'ils sont complètement ivres-morts. On leur dit ça. Mais on n'ose pas passer le pas en disant que l'alcoolisme est une maladie, donc ils sont malades alcooliques, ou ils ont une relation difficile avec l'alcool. Retenez cette phrase. C'est de leur dire tout simplement, je pense que t'as une relation difficile avec l'alcool, il va falloir peut-être que t'ailles consulter quelqu'un qui puisse t'aider. Donc il y a des alcoologues, quand on a un problème cardiaque, on va voir des cardiologues, quand on a des problèmes avec le diabète, on va voir des diabétologues, quand on a des problèmes autres, on va voir le spécialiste, et là, il faut aller voir des alcoologues. Quand vous avez un problème de tabac et que vous n'y arrivez pas seul, vous allez voir un tabacologue. Et là, il faut aller voir des alcoologues.
Mais encore faut-il que la personne l'entende, ça, et qu'elle soit d'accord avec ce que
alors,
vous dites.
Alors, peut-être pas la première fois, mais il faut lui répéter. Okay ? Et plus vous lui répéterez, plus un jour, ça fonctionnera. Il ne faut pas se retrancher derrière le fait qu'il n'entende rien pour ne pas lui parler. Parce que c'est souvent ce qu'on me dit, moi. On ne lui dit plus rien, puisqu'il ne veut pas entendre.
De toute façon, il ne veut pas entendre. Voilà.
Ouais, voilà,
C'est pratique.
Donc, c'est pratique, on se retranche derrière ça. Et derrière le jugement, parce qu'une fois qu'on a jugé, il n'y a plus rien à faire, on est bien d'accord. Et on se retranche en disant, comme il ne veut rien entendre, on ne lui parle pas. Voilà. Et c'est comme ça que je retrouve des gens au fond des couloirs et au bout des couloirs.
Voilà. Placardisés dans un bureau, à ne rien faire ou à roupiller sur leur bureau.
Oui. Alors roupiller, ils sont souvent comateux. C'est même pas, ils dorment pas, ils comatent. Ils sont dans une phase de premier coma. Quand on dit ils dorment, ils dorment pas. Ils sont sous effet d'alcool et souvent ils font rien. Moi, j'ai été dans une entreprise à la Défense où un type, je rentre dans son bureau et on me demande de le prendre en charge. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Et il fait, moi, je lis Le Monde. Et ça faisait des mois que le type lisait Le Monde. Je lui dis, mais vous avez un écran d'ordinateur? Et il fait, oui, mais je n'ai pas le clavier. On lui avait enlevé le clavier pour pas qu'il puisse aller sur l'ordinateur. Et ça faisait des mois et des mois qu'il était dans cet état-là. Il lisait Le Monde le matin, du matin au soir.
Ouais, c'est un exemple que vous prenez dans votre livre. Patrick Bouchard, vous êtes notre invité jusqu'à 10h. Votre livre s'appelle « Il suffit d'une rencontre ». Sous-titré une histoire de dépendance qui finit bien aux éditions Flammarion.
Merci.
À votre santé, reviens dans un instant. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Mon invité ce matin est Patrick Bouchard, vous êtes alcoologue, vous racontez votre histoire et l'expérience et ce que vous en avez fait dans un livre qui s'appelle « Il suffit d'une rencontre » aux éditions Flammarion. Tout commence chez vous par un rendez-vous chez le dentiste. Qu'est-ce que vous comprenez ce jour-là ?
Moi, je comprends tout simplement que la boucle est bouclée, que l'explication de ma maladie, j'apporte la dernière pierre au pulse pour comprendre pourquoi je suis devenu alcoolodépendant. Voilà.
Ouais. Le mot, finalement, vous ne l'entendrez que très tard.
Ah non, mais je le savais.
Vous le saviez.
Je le savais. Ouais. C'est une confirmation que j'attendais. Donc là, on me confirme très très bien que dans mon enfance, ça a été compliqué. Voilà. Donc je le savais déjà, mais on me le confirme.
Est-ce que vous avez compris précisément les raisons qui font que vous êtes devenu malade alcoolique ?
Alors, il n'y a jamais une seule raison, ce sont toujours des valeurs ajoutées, hein. C'est toujours des raisons successives. On ne devient pas, d'ailleurs, alcoolodépendant pour une seule raison. J'ai jamais vu les cas que j'ai traités avec une seule raison. C'est toujours des raisons, ok ? Et en général, la plupart viennent de l'enfance.
Vous, c'est votre enfance, votre père ?
Oui.
Votre père qui était...
C'était un grand pont de la faculté de chirurgie dentaire.
Je ne sais pas ce que je voulais vous faire dire, mais bon, enfin, parce qu'en fait, le dentiste que vous rencontrez vous dit, vous savez, j'ai été formé par votre père.
Oui.
Voilà, et il vous révèle un trait de caractère de votre père que vous connaissiez bien.
Que je connaissais, mais il me l'a confirmé.
Oui.
Il m'a confirmé que, vu de l'extérieur, c'était exactement l'idée que j'en avais. Donc je pensais être le seul à avoir cette idée-là.
Mais père non, caractériel, on va dire. Ça vous va comme ça ?
Oui, c'était un pervers narcissique, mon père. Tout à fait. Donc plus que caractériel, oui.
Vous commencez à consommer de la bière très tôt. Vous avez quel âge ?
Quand je commence à consommer de la bière, je pense vers les 12-13 ans à peu près.
D'accord.
Oui. Ouais. Des panachés bien blancs. Et puis après...
Alors le panaché, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange de bière et de limonade.
Et de limonade,
je ne sais plus si ça existe encore dans le panaché.
Ça existe encore ? Ça existe encore. Puis après, que les effets soient exactement les mêmes, on augmente les quantités, on augmente les doses, donc on met plus de bière que de limonade. Et on finit au demi de bière.
À quoi ça vous servait l'alcool à l'époque ? Est-ce que vous saviez pourquoi vous buviez ?
Ah, je ne savais pas pourquoi, mais ce qui était certain, ça me servait à affronter les difficultés, ça me servait à avoir une personnalité que je n'avais pas, ça me servait à affronter les gens, à affronter mes profs quand j'étais à l'école, etc. etc.
Vous buviez quand vous étiez à l'école, en fait.
Oui, aussi, oui.
Et vous racontez dans votre livre que vous finissiez de temps en temps au commissariat et que votre père venait vous chercher. Qu'est-ce qu'il vous disait à ce moment-là ?
Il n'était pas du tout content, puisque c'était un notable. C'était un notable de l'arrondissement, donc il n'était pas du tout content qu'il vienne me chercher. Moi, je me faisais enfermer au commissariat du 15e arrondissement de Paris... parce que je savais que j'allais commettre peut-être des délits.
Donc, c'était préventif.
C'était préventif. Donc j'allais frapper à la porte du commissariat, qui à l'époque d'ailleurs c'était un peu plus humain que maintenant, puisque en haut du commissariat était noté poste de secours. Donc j'allais frapper au poste de secours.
Avec cette idée de qu'on secourait les gens,
oui. Oui, absolument. C'était noté poste de secours et on m'ouvrait la porte et on me mettait en cage et on me relâchait le lendemain quand on en avait appelé mon père.
C'était dégrisement, c'était ça ?
Oui, c'était l'avant. Ça vient peut-être de là, le dégrisement.
Ouais. Cellules de dégrisement, comme on appelle ça.
Oui.
Ceci n'ayant rien à voir avec cela, vous racontez une anecdote avec Serge Gainsbourg, dont vous êtes le chauffeur d'un soir, en parlant de commissariat, je veux dire.
Oui.
Pourquoi ? Parce que Gainsbourg vous emmène dans un commissariat.
Il m'emmène dans un commissariat parce que...
Après le drugstore Publicis, pour ceux qui ont connu le drugstore Publicis, en haut des Champs-Élysées.
Oui. Ah non, c'était pas... Alors, c'est pas celui des Champs-Élysées.
Ah, celui de Saint-Germain, alors.
Celui de Saint-Germain.
À côté de chez Lippe.
Oui, ouais. Absolument. Puis pas loin de chez lui, d'ailleurs.
Oui, puisqu'il habitait rue de Verneuil, juste à côté.
Oui. Mais c'est pas là où je suis allé le prendre. Je suis allé le prendre à l'hôtel Raphaël. Et je suis allé le chercher au bar. Quand j'ai demandé au concierge que je venais chercher, Monsieur Serge Gainsbourg, on m'a dit, mais allez au bar, il est au bar, allez le chercher. Et là, il y avait deux hommes qui étaient de dos. J'ai tout sauté pour annoncer ma présence. Ils se sont retournés et Serge Gainsbourg, il m'a dit, mon petit, c'est bien, t'es venu me chercher, mais je te présente mon médecin. On a accompagné le médecin chez lui et puis j'ai passé la nuit avec Serge Gainsbourg et Jean Lefebvre dans une boîte de nuit.
Jean Lefebvre qui était un acteur très connu.
Oui.
Du boulevard et qu'on a dû...
Très gentil d'ailleurs, tous les deux, adorables. Adorable.
Et ils ont passé la nuit à...
Ils ont passé la nuit à consommer de l'alcool, oui.
Vous, c'était l'époque où vous buviez plus, mais bon.
Non, mais on m'a proposé des verres, j'ai refusé. Mmh. Et en les refusant, c'est comme ça que je me suis aperçu que j'étais sur la bonne voie.
Mmh. Et ils vous emmenaient en commissariat parce qu'ils voulaient payer un coup.
Il voulait surtout les remercier. Les policiers du 5e arrondissement de Paris, ils les aimaient beaucoup. Il leur avait rendu des services, il était très connu en commissariat et il a apporté des cadeaux au commissariat du 5e arrondissement au premier étage. Et même au premier étage, pour l'anecdote, il y avait un lion qui avait été offert, avec une plaque en dessous, offert par notre ami Serge Gainsbourg.
Un lion empaillé.
Empaillé, un lion en peluche.
Mmh. Voilà. Ah, en peluche. Oui. Vous ratez votre bac, vous vous dirigez vers les métiers de l'hôtellerie-restauration, dans des endroits chics au début.
Oui.
Même très chic, et c'est là où vous commencez à boire, puisque finalement, c'est des métiers où on peut plus facilement consommer de l'alcool, on finit tard, donc on sort après.
Il est connu dans l'hôtellerie et restauration qu'on a c'est facile, l'alcool est à portée de main. Donc, et quand on sortait, on essayait de reproduire un peu aussi la vie fastueuse qu'avaient nos clients. Donc, on consommait aussi à l'extérieur.
Ouais. Et vous racontez quand même que dans un premier temps, l'alcool vous aide à tenir le coup, finalement, à tenir le rythme.
Oui, parce qu'à l'époque, c'était pas les 35 heures et on travaillait énormément dans l'hôtellerie-restauration. On faisait même, par exemple, deux services avec un service de garde l'après-midi. C'est-à-dire qu'on commençait très tôt le matin, on faisait le service du midi. On restait l'après-midi pour faire ce qu'on appelle le mastic, c'est-à-dire le ménage. On appelait ça le mastic dans le métier. Et le soir, on faisait le service du soir. On finissait à 22h, 23h, jusqu'à 1h du matin pour ceux qui étaient de garde du soir. Mmh. Voilà. Donc, on travaillait énormément. Et pour tenir, c'est vrai qu'on avait peut-être un peu besoin d'alcool.
À quel moment réalisez-vous que l'alcool prend le pas sur tout le reste, Patrick Buchard ?
Jamais. Jamais, sauf à la fin. Sauf à la fin, je ne sais pas comment je peux m'en sortir. Les associations n'avaient pas autant de poids que maintenant. La médecine, il y avait deux ou trois médecins à l'époque qui s'occupaient de ces problèmes-là. On n'en parlait absolument pas. Moi, j'ai 36 ans d'abstinence. Alors, vous n'avez qu'à voir, quand j'ai arrêté de consommer de l'alcool, il y a 36 ans.
83,
exactement.
Si vous racontez, 8 décembre 83.
Eh bien, 8 décembre 83, vous vous référez à ce qui existait en alcoologie, il n'y avait absolument rien.
Je n'étais pas né, moi.
Oui, absolument.
Enfin bon.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on en parlait quand même plus.
Ah, pas du tout. Non,
mais
non.
Pas de la même façon, en tout cas.
Non. En tout cas, non. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que...
Regardez, on a une émission comme Les Dossiers de l'écran. Vous dites que, par exemple, une émission comme Les Dossiers de l'écran est une émission qui vous a quand même beaucoup aidé dans ce que
c'était
vous êtes...
exceptionnel, une émission comme ça.
C'était 20h30, la plus belle émission de France à l'époque.
Oui. C'est une émission qui a fait démarrer mon cabinet. Ouais, absolument. Une très belle émission.
Il y avait un film qui était projeté, c'était suivi d'un débat.
C'est ça.
Mais c'était quand même une vitrine incroyable. En général, à partir du moment où le débat était traité au dossier de l'écran, ça veut dire qu'ils amenaient le débat sur le, sur la place
fait.
Publique.
Voyez, c'était très bien fait. C'était très bien fait. Alors, moi, j'ose dire que maintenant, on n'a pas ce style d'émission-là. Ça ne se fait plus du tout. On est mieux sur les émissions télévisuelles. Le buzz, on est mieux... Le truc court qui clash, vous voyez. On n'avait pas les émissions de fond, de réflexion, comme il y avait avant.
Est-ce que ça a un sens de vous demander quelle est la quantité d'alcool que vous absorbiez par jour avant 83?
Non, ça n'a pas de sens pour les autres.
Parce que les gens, en fait, quand on parle d'alcoolisme, ils veulent toujours savoir c'est à partir de combien qu'on est alcoolique. C'est-à-dire comme s'il y avait une quantité au-dessus de laquelle on n'était pas alcoolique.
Je vais vous répondre différemment. L'alcoolisme, c'est la perte de liberté de s'abstenir. Si vous pensez avoir un problème d'alcool, essayez de vous arrêter pendant 10 jours consécutifs. Essayez. Si vous avez des troubles psychologique, physiologique, si vous commencez à avoir des tremblements, des sudations, il faut absolument faire une chose, c'est de reconsommer. Parce que vous êtes en prédélirium très mince. D'accord ? Mais vous devez vous autotester tous les ans. Tous les ans, vous devez savoir où vous en êtes avec l'alcool. Si l'alcool prend une place particulière dans votre vie et que c'est un choix particulier par rapport à d'autres choix, il faut déjà consulter. Et ce test de 10 jours est exceptionnel. Si tous les Français faisaient ce test de 10 jours, on n'attendrait pas le bout du bout du chemin.
10 jours, donc, c'est zéro consommation.
Zéro consommation pendant 10 jours. Et 10 jours et 10 nuits. Hein, parce que je connais des gens qui récupèrent ce qu'ils n'ont pas bu la journée et la nuit.
Aujourd'hui, les habitudes de consommation ont changé puisqu'il y a ce qu'on appelle le binge drinking, notamment chez les jeunes, alors qu'ils ne boivent pas du tout pendant la semaine et qui, le week-end venu, vont boire le plus vite possible une grande quantité d'alcool. Est-ce que ça conduit à l'alcoolisme, finalement, ça?
Bien sûr. On n'en a pas parlé, mais l'alcool est un produit excessivement dangereux. Et vous savez pourquoi il est dangereux, l'alcool?
Bah, si vous faites les questions et les réponses, je peux changer de métier.
Non, mais attendez.
Pourquoi il est dangereux, l'alcool?
L'alcool est dangereux parce qu'il fait 49 000 morts par an.
Non, mais là, vous ne me parlez pas de la substance, finalement. Les gens, ils meurent de quoi? Ces 50 000 morts, ils meurent de quoi?
Alors, ils meurent de cancer, de problèmes cardiovasculaires, d'AVC, ils meurent... De psychose, de névrose.
De maladie, vous voulez dire. Oui. C'est pas des accidents de la route, c'est pas des.
Ah, bah les accidents de la route sont compris dedans aussi. Hein. C'est clair. Hein. Vous avez un tiers des accidents de la route, c'est des problématiques alcool. Et 40% des accidents mortels de nuit, l'alcool est concerné. Donc c'est quand même énorme.
C'est ça qui fait que c'est une substance dangereuse.
C'est une substance dangereuse parce qu'il fait 49 000 morts par an. Donc c'est la deuxième cause de mortalité évitable en France. La première étant le tabac, la deuxième étant l'alcool. On a 1200 morts avec l'amiante, on a désamianté la France entière. On a fait chier tout le monde avec 1200 morts par an. Un, c'est trop. Hein.
Oui, enfin, 1200 morts par an, mais il y a toute une épidémie derrière, de gens qui ne sont pas déclarés aussi, Patrick
Oui,
Bouchard.
D'accord, et ben exactement pour l'alcool. Quand vous dites qu'il y a 49 000 morts et 70 000 morts avec le tabac, vous n'avez pas un seul alcoolo-dépendant qui ne fume pas. Donc, ils sont dans les rangs des décès provoqués par le tabac. Donc, ce n'est pas 49 000 morts, hein. C'est beaucoup plus que ça.
Patrick Bouchard est notre invité aujourd'hui. On parle de ce problème qu'est la maladie alcoolique. Il suffit d'une rencontre. C'est le titre du livre que vous publiez. C'est un témoignage, mais aussi c'est votre biographie d'une certaine façon, Patrick Bouchard, aux éditions Flammarion.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On parle de la maladie alcoolique aujourd'hui avec Patrick Bouchard, vous êtes alcoologue et vous publiez « Il suffit d'une rencontre » aux éditions Flammarion. Il y a une date qui est importante, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, hein, c'était décembre 83. Là, vous commencez tôt la journée au bar, d'un café. À côté de vous, il y a un monsieur très bien habillé, très poli. Qu'est-ce qu'il vous dit, ce monsieur? Une phrase qui va changer votre vie.
Bon, déjà, je trouve qu'il est excessivement bien habillé. Il a des chaussures qui sont bien cirées. Il a un costume trois pièces, la rosette de la Légion d'honneur. Il est en train de siroter un thé. Et j'avais commandé un ballon de rouge, puisque c'était la seule chose que je pouvais me payer. Il se penche vers moi et me dit « Est-ce que tu as envie de vivre ou est-ce que tu as envie de crever ?» Et j'essaie de rentrer en communication avec lui, mais il me dit « Non, 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 je t'ai simplement demandé, réponds à ma question, est-ce que tu as envie de vivre ou est-ce que tu as envie de crever ?» Je lui dis « Mais pourquoi vous me posez cette question ?» Il dit « Parce que si tu as envie de vivre, dans 5 minutes, je finis mon thé, je traverse la place et je vais à une réunion d'anciens consommateurs d'alcool. Si tu as envie de crever, tu restes ici. » Et j'ai réessayé de lui reposer les questions. Il dit « J'ai rien d'autre à te dire. » Et je l'ai suivi. C'était une phrase providentielle.
Ouais. Et vous apprendrez par la suite que quand ça ne va pas, on cire ses chaussures.
Oui. Quand on a envie de consommer de l'alcool, s'il y a une des techniques des mouvements d'anciens buveurs, c'est de cirer ses chaussures, faire ses carreaux, s'occuper des mains. Il faut absolument s'occuper. Et faut lessiver sa cuisine. Faut s'occuper. Et bon, la première des choses à faire, c'est de cirer ses chaussures. Donc, c'est toujours pour ça que j'ai les chaussures excessivement cirées. Voilà.
Ouais, en plus dans une couleur qui est pas évidente. Hein.
Oui, enfin, ça existe.
Je sais, mais c'est pas évident. Enfin, voilà. Peu de gens portent des couleurs de cette couleur, des chaussures en cuir de cette couleur-là. Donc, vous devez avoir un cirage, bah, ouais, particulier.
Ah oui, oui.
On est entre noir et le marron hein, dans les chaussures, hein, pas.
Ouais, mais. Bleu, c'est joli aussi. Hein.
Est-ce que j'ai dit que c'était moche ? J'ai dit que c'était particulier. Ouais. Très joli, ça vous va bien au pied, Patrick Bouchard.
Mais c'est gentil, merci.
Alors, vous arrivez dans cette réunion et vous arrêtez sur une phrase, c'est « Je m'appelle un tel et je n'ai pas bu aujourd'hui ». À l'époque, vous ne compreniez pas ce que ça voulait dire.
Oui. Moi, je ne comprenais pas du tout, non. Je n'ai pas bu aujourd'hui, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Au moins, je me suis dit « Tiens, il y a un endroit à Paris où les gens ne boivent pas une journée dans la semaine ». Donc, je voudrais savoir où il picole le reste du temps. Et je me suis aperçu que c'est tous les jours qu'il se répétait la même phrase. Donc, il ne buvait pas un jour à la fois, mais répétitif dans une semaine, ça fait 7 jours. Et puis, dans un mois, ça fait un mois. Et dans une année, ça fait une année. Donc, c'est un jour à la fois. Donc, quand il arrête de consommer de l'alcool, c'est jour par jour. Ce n'est pas une semaine ou un mois. Ils ne se projettent pas. Ils vivent le moment présent. Ils vivent leurs 24 heures.
Et vous comprenez ce jour-là que l'alcool est une maladie et que si c'est une maladie, il est possible de s'en sortir surtout.
Oui, parce que là, je vois des gens qui s'en sont sortis. Ouais. C'est la première fois de ma vie que je vois des gens qui s'en sont sortis. Et croyez-moi, ça fait envie. Ça fait plus qu'envie. Ce sont des gens excessivement bienveillants, excessivement courageux. J'adore ces gens-là parce qu'ils reviennent de l'enfer. Et ils ne se la montrent pas. C'est des gens simples. Et j'adore les gens simples.
Aujourd'hui, c'est une phrase que vous vous répétez encore ?
C'est-à-dire quelle phrase ?
Je n'ai pas bu aujourd'hui.
Je ne me la répète plus, mais puisque vous me posez la question, oui, je n'ai pas bu aujourd'hui.
Oui. Mais est-ce que c'est est-ce que dans le processus, en tout cas de prise en charge et de guérison, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours de sa vie
en au début, oui. Au début. Si vous avez arrêté de fumer, par exemple, je vais vous reposer les questions parce que on va faire les questions et les réponses. Vous avez arrêté de fumer ?
J'ai arrêté de fumer.
Bravo déjà. Bravo.
Oui, c'est pour ça qu'elle m'a dit bravo tout à l'heure.
Bravo. Et non, parce que c'est pas facile.
C'est mon métier, parce que si je continuais, je finissais par avoir la voix de
Gainsbourg.
Non, de Yves Mourousi.
Yves Mourousi.
Non, oui, donc à bout d'un moment, il faut choisir. C'est où vous continuez à faire de la radio ou vous.
Mais au début, c'est heure par heure. Et puis après, c'est journée par journée, on est bien d'accord. Et puis quand vous avez 1, 2, 3, 4 ans, 10 ans d'abstinence de tabac, vous n'y pensez plus. C'est exactement la même chose pour l'alcool. Sauf qu'on ne vous tend pas une cigarette. Par contre, en France, on vous tend un verre d'alcool à toute occasion. On ne vous met pas une cigarette dans la bouche et on ne vous l'allume pas, mais on vous tend un verre d'alcool.
En tout cas, il y a beaucoup d'occasions de célébrer quelque chose.
Oui, puis on ne comprend pas pourquoi vous ne consommez pas d'alcool. Quand je vais au restaurant, on me force le verre, comme on dit. jusqu'à ce que je dise non merci, j'ai trop bu hier. Alors on me dit ah oui, si vous avez trop bu hier, ce qui est faux bien sûr, puisque je consomme pas.
Bah, dites que vous êtes musulman, Patrick Bouchard.
Ah bah pourquoi pas, tiens, c'est une bonne idée ça.
Dites je suis musulman, vous allez voir, ça va calmer tout le monde.
Ah bah ça c'est une excellente idée.
Là je vais dire ça va être beaucoup mieux de que je suis alcoolique. On va dire ah bah oui, il boit pas forcément.
Ah ouais ouais, ça c'est une bonne idée.
Voilà. Je valide le truc hein.
Oui.
Comment est-ce que vous avez élaboré votre méthode et comment est-ce que vous avez pu mesurer son efficacité ? Puisque votre méthode s'adresse à des salariés en entreprise.
La méthode, c'est une méthode de sevrage ambulatoire en poste de travail. Et oui, j'ai été le seul à l'inventer pour l'instant. Mais par contre, il faut bien les suivre. Il faut les suivre 24 heures sur 24.
C'est-à-dire que ça ne se négocie pas ?
Ça ne se négocie pas, non. Non. L'alcool, c'est 24 heures sur 24, donc le sevrage et l'aide au sevrage doit être 24 heures sur 24.
Mais en quoi ça consiste précisément que ce sevrage, puisque vous nous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas s'arrêter quand on était malade alcoolique tout seul, parce qu'on risquait finalement pour sa santé.
Quand on est pris en charge psychologiquement et qu'on sait qu'on est soutenu par un thérapeute alcoologue et puis par des anciens consommateurs d'alcool, c'est quand même beaucoup plus facile que d'arrêter seul dans sa chambre de bonne, dans son studio ou dans son appartement alors que sa femme et ses enfants sont partis. Quand on est critiqué au poste de travail aussi, donc on peut contacter son thérapeute 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365.
Ça a commencé par un alphapage à l'époque. Bon,
oui, je ne sais pas si vous avez connu.
Ah oui, j'étais pas né, mais j'ai connu l'alphapage, le beeper.
Oui, et avant le Radiocom 2000.
Ah oui. C'était lourd.
C'est une valisette, valise avec un téléphone dessus.
Radio
que je louais.
Ne quittez pas.
Oui, ça coupait une fois sur deux. Et après, je suis passé à l'alphapage pour être joignable 24 heures sur 24. Et après, mes consultants devaient être joignables 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'un consultant qui ne répondait pas à un malade alcoolique, il faisait plus partie de mon cabinet parce que c'est une urgence.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure de répondre au moment où l'appel arrive.
Parce que c'est un succès assuré. C'est-à-dire que la personne qui appelle et qui a envie de consommer de l'alcool et qui fait l'effort d'appeler, si on lui répond, il n'y a pas de réalcoolisation derrière. Et ça, c'est 100% des cas.
Est-ce qu'il y a une prise en charge médicamenteuse ?
Oui, on peut avoir une prise en charge médicamenteuse, mais pas dans tous les cas. Sur 10 cas, vous pouvez avoir une à deux prises en charge médicamenteuses, donc qui sont prescrites par des médecins alcoologues. Et ces médecins alcoologues sont vus obligatoirement au début de la prise en charge.
Il y a une dizaine d'années, on a vu arriver une molécule qui a fait sensation, ce qu'on appelle le baclofène.
Oui.
Ça en est où aujourd'hui ? On disait que c'était le médicament miracle pour les personnes qui étaient malades alcooliques.
Oui, alors il n'y a rien de miraculeux, parce que ça se saurait. Déjà, on aurait soigné tous les malades alcooliques de la Terre. C'était le cas, la maladie alcoolique, c'est une maladie neuro-bio-psycho-sociale. Vous me suivez ?
Non.
Non ? Alors, je répète, neuro-bio, ça va ?
Ouais.
Neuro-bio-psycho ça va, psychologique, social, ça va. D'accord.
Ce qui veut dire pourquoi ?
Ça veut dire. Et alors, ça veut dire simplement que la molécule de baclofène, elle est que sur le neurobio. Elle travaille pas sur les autres, sur les autres raisons de la problématique alcool. Il faut travailler sur l'ensemble de ces facteurs. Si on travaille pas sur l'ensemble de ces facteurs, on a des réalcoolisations. Alors, c'est très intéressant pour la diminution du risque. Le baclofène, il est très intéressant aussi pour les rendez-vous pris très souvent chez les médecins alcoologues. Parce que vous avez très peu de malades alcooliques qui veulent s'arrêter totalement de consommer.
Et en l'occurrence, c'est ce qu'il faut faire.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une tolérance.
Au bout du bout de la prescription de baclofène, c'est l'arrêt total et définitif qu'il faut viser. Ce n'est pas vivre avec un médicament toute sa vie, où il y a des dommages sur la consommation excessive, d'ailleurs, de ce médicament, et sur les effets secondaires.
Je pense aux familles de personnes qui vivent avec une personne qui est malade alcoolique, qui souvent, elles aussi, sont parfois dans le déni. Comment est-ce qu'on aborde cette question avec son conjoint, avec son père, avec sa mère ? Est-ce que vous dites que finalement, déjà, les personnes de la famille ne sont pas forcément qualifiées pour aider la personne qui est malade?
C'est une maladie très compliquée, justement, parce qu'elle est neurobiopsychosociale. Et dans la psychologie, il y a une chose qui est importante à retenir, c'est que les gens de la famille sont souvent... il y a souvent un lien émotionnel très important. Il y a un affect très important avec les gens de la famille. Donc ce lien, il faut savoir que plus on est près du salarié ou du malade alcoolique, plutôt, puisque là il s'agit de la famille, plus c'est compliqué. Simplement, il faut simplement dire aux gens, de leur dire que l'alcoolisme est une maladie et que ça se soigne. Okay ? Mais il faut essayer de passer le relais sur des médecins ou des associations connexes. L'association connexe pour les conjoints ou la famille, il y en a une qui est très connue, c'est les Al-Anon. Et c'est le mouvement connexe des alcooliques anonymes pour les conjoints. Il faut absolument que les gens rejoignent. Il y a des façons de parler aux malades alcooliques. Et c'est vrai que le malade alcoolique...
On parlait des mots sans infantiliser.
Alors sans infantiliser, puis en plus de ça, puisque je vous fais de la peine en consommant de l'alcool, je fais des conneries et je reconsomme de l'alcool, ce qui me permet de valider le fait que je reboive derrière, puisque je vous fais de la peine, et si je vous fais de la peine, ça me refait de la peine. Donc on est dans un cercle vicieux épouvantable. Épouvantable. Donc il faut sortir de ce cercle vicieux, et en tout cas, les meilleures prises en charge qui sont faites par des gens qui sont de l'extérieur, mais appelés par la famille.
Et ça prend combien de temps?
De quoi?
Une prise en charge, on va dire. Est-ce que ça prend combien de temps de s'arrêter de boire, finalement?
Ça prend une seconde dans la tête, mais ça prend une année pour valider le fait qu'on puisse vivre heureux sans faire usage de produits. Pourquoi une année? Parce qu'en une année, tout s'est produit sans alcool. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un accident de voiture, vous pouvez avoir un conflit avec votre conjoint, un conflit avec votre chef au boulot, vous pouvez avoir des difficultés financières, etc. Si vous passez toutes ces difficultés au bout d'une année, en général, quand la personne a fêté sa première année d'abstinence, on peut être à peu près certain, je ne veux pas dire certain, mais souvent il est sur la très bonne voie.
Optimiste en tout cas. Et la vie change de couleur quand vous arrêtez de boire?
Ça je veux, oui. Ça, plus que changer de vie, c'est une renaissance totale. Et les gens sont heureux. Et la preuve, c'est que vous avez des gens qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'abstinence. Et il faut aller les rencontrer pour prendre chez eux de l'optimisme et surtout voir la façon dont ils vivent. Et ils vivent heureux sans faire usage du produit alcool.
Et vous en avez rencontré pour écrire votre livre, Patrick Buchard. Votre livre s'appelle « Il suffit d'une rencontre » aux éditions Flammarion. Merci de cette rencontre ce matin sur Beurre FM. À bientôt Patrick Buchard.
Merci beaucoup. Au revoir.
Retrouvez À Votre Santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.